Coucou les amis, micro-promo avant de démarrer pour vous dire deux petites choses. Premièrement, j'ai écrit un nouveau spectacle qui s'appelle « On disait qu'on faisait la fête » et je vais le jouer un peu partout, en tournée, en France, en Belgique, en Suisse, en Espagne, même en Asie. Toutes les dates sont sur fannyruet.com. Et puis deuxième nouvelle, mon roman « Bien sûr que les poissons ont froid » sort en format poche le 2 mai et il sera dispo le même jour en livre audio. Je l'ai enregistré moi-même, j'ai trop aimé faire ça et je suis trop contente du résultat, donc yay!
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Salut, je m'appelle Fanny Ruet et vous écoutez Les gens qui doutent.
Il y a un peu une injonction à être trop bien dans sa peau tout le temps et tout, et je pense que être bien, ça veut pas dire tout le temps être bien dans sa peau, ça veut juste dire avoir trouvé une espèce d'équilibre entre se remettre en question et être fier de soi, et en fait ça veut pas forcément dire que t'es tout le temps fier de toi quoi. Ça veut juste dire qu'il y a des moments où t'es fier de toi et où t'arrives à te féliciter et qu'il y a d'autres moments où t'arrives à te réprimander.
Je suis hyper heureuse de recevoir la chanteuse française Pomme dans ce nouvel épisode des gens qui doutent. Beaucoup la connaissent déjà, hein, puisqu'on la voit absolument partout dans les médias depuis qu'elle a remporté début d'année une victoire de la musique avec son deuxième album Les Failles. Un album qui parle, comme son nom l'indique, de brèches, de peurs, de choses qui ne fonctionnent pas comme elles devraient. Il y a un morceau sur l'anxiété par exemple, il y en a un autre sur la peur de mourir, de vieillir. Donc forcément Pomme me semblait être une invitée idéale pour ce podcast, surtout que l'album, c'est vraiment, je pense, celui que j'ai le plus écouté cette année. Je le trouve sublime, il est très réconfortant, très doux, il est très imagé et la forme va très bien avec le fond puisque pour l'enregistrer, Pomme est allée en studio avec Albin de la Simone et ils avaient 5 jours pour enregistrer 15 morceaux. Donc ils n'avaient pas le temps de repasser 1000 fois sur chaque piste et tout. Ils ont laissé les petites imperfections, les petits imprévus. On a évidemment beaucoup parlé de cet album Les Failles dans l'épisode, de comment il lui a permis de reprendre le contrôle de sa carrière et de sa musique après un premier disque qui était, je la cite, désastreux. On a parlé de mélange entre vie privée, vie professionnelle, de l'obsession pour le travail et de l'incapacité à ralentir la cadence à ce niveau-là. On a parlé de confiance en soi, d'instinct et d'infection urinaire parce que c'est ça aussi la vie. L'épisode est un peu plus court que d'habitude parce qu'on n'avait pas énormément de temps, donc j'ai pas pu creuser les sujets comme j'aurais voulu. Mais voilà, j'espère que ça vous plaira.
Je suis là, je suis dans le podcast. Salut à tous. Je suis dans mon émission de radio, là.
T'es quelqu'un d'un peu foutraque dans la vie?
C'est quoi, foutraque? Genre, qui fout le bordel, quoi?
Non, mais un peu foutraque, genre, au niveau organisation. Vous utilisez pas foutraque?
Mais quoi, t'es belge. T'es belge.
Mais oui.
Non. Par contre, je suis la personne la plus control freak et organisée de la Terre. Donc, je suis l'inverse de foutraque. Je suis très, 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 très organisée et très control freak. Et je n'ai aucun lâcher prise, en fait. Et voilà, non, j'ai besoin d'organisation. C'est un peu mon problème. J'ai besoin de me coucher à une heure précise pour dormir 9 heures. Tu sais, je fais partie de ces gens et je peux annuler des activités ou raccrocher au nez de quelqu'un si c'est le moment pour moi d'aller dormir, quoi.
Arrête de me chauffer.
Tu vois?
Oh putain, c'est tellement rêve de faire ça.
Bah ouais, moi je suis en mode désolé, il est 23h, bye. Genre, voilà. Donc non, je suis hyper à cheval sur les. Je suis très scolaire en fait, en vrai.
Pourquoi? Parce que t'as besoin d'avoir un cadre hyper strict pour pouvoir déconner à l'intérieur ou.
Ouais. J'ai besoin de dormir beaucoup et je suis hyper fragile physiquement. Enfin, j'arrive pas à suivre le rythme des gens de mon âge. Et du coup, j'ai besoin d'avoir un certain cadre. Mais même si à l'intérieur de mon cadre, c'est un peu flou, mais je me lève toujours plus ou moins à la même heure. Je déteste faire des grasses matinées, c'est ma phobie. Je me lève genre à 8h30, tu vois. Même si j'ai rien, parce que j'ai ce truc de rythme récurrent, tu vois. Et malheureusement, quand je fais des concerts, c'est un peu compliqué, du coup, parce que j'ai aucun rythme.
À 23h, allez, non, il n'y a pas de rappel, bisous.
Ouais, c'est ça, pendant le concert, parce que franchement, à 23h, je suis en plein concert. Donc, la tournée, ça a tendance à me fatiguer vachement. Mais oui, c'est un cadre qui me permet, à l'intérieur du cadre, de faire plein de trucs chouettes que j'aime et d'avoir ce sentiment d'être active, enfin, plus qu'un sentiment d'être active tout court, quoi, tu vois.
Mais tu dis le rythme par rapport aux autres gens de ton âge, mais en vrai, t'as un rythme hyper, hyper soutenu pour quelqu'un de 23, 24 ans?
Ouais, 24 maintenant, depuis un mois.
Oh là là.
Presque deux mois. Terrible. Terrible nouvelle.
Non, c'est vrai. T'es donc cancer?
Non, je suis lion. Ah. Je suis née début août. En fait, je travaille beaucoup depuis que j'ai 16 ans, mais depuis un an particulièrement, on est sur un rythme effréné. Et c'est très étrange, c'est comme si je classe un peu tout et j'ai du mal à mélanger, tu vois, ma vie de travail avec ma vie sociale. Donc il y a des périodes où je vais pas du tout faire la fête, je vais pas du tout faire de la place à mes amis, et il y a d'autres périodes où je vois mes amis tout le temps et pendant genre... Mais c'est des courtes périodes, tu vois, je parle de périodes de 3 jours à chaque fois, genre je vais travailler non-stop pendant 4 jours et après je vais voir mes amis sur un vendredi, samedi, dimanche, je vais faire que voir mes amis. Et j'ai du mal à mélanger les deux parce que comme quand j'ai eu 16 ans, je suis partie de Lyon pour aller à Paris et du coup j'ai dû séparer vachement ma vie avec mes amis de ma vie de musicienne adolescente, tu vois, genre je crois que j'ai ce truc un peu de séparer un peu les deux, quoi. Et je suis pas quelqu'un qui parle dans ma vie sociale et ma vie avec mes amis. Je suis pas quelqu'un qui, j'ai pas l'impression de, enfin je sépare vraiment les deux, quoi, tu vois, il y a un truc. Et en même temps mes amis ils font un peu tous de la musique parce que mes amis d'enfance je les côtoie plus vraiment, tu vois, donc bon je pense que tout est un petit peu mélangé en vrai. Mais oui, en fait j'ai un peu le même rythme que mes amis musiciens en plus intense, et je bois pas du tout d'alcool et je fais pas trop la fête, donc c'est plus ça en fait, je pense, la différence. Genre, je sors pas trop dans les bars et tout, tu vois. J'aime pas trop.
Ok. Et là, ça te convient, ce genre de rythme assez très dans les extrêmes à chaque fois?
J'arrive pas trop à faire autrement. En fait, j'ai des espèces de périodes comme ça, ouais, où j'ai une petite... je crois que j'ai une petite problématique autour de l'activité, de la production en général, d'être actif, de faire des choses, de produire des choses, de travailler et tout. Et je, malheureusement, j'ai un petit workaholisme, je pense. Oui, ça me convient parce que je vois bien que ça me rend hyper heureuse de faire des projets et d'aller au bout des projets. Après, je suis souvent très fatiguée quand même. J'ai du mal à trouver un bon équilibre entre avoir des 2000 projets en permanence et toujours aller au bout de mes projets. C'est-à-dire que c'est rare que je commence un projet et que je le finisse pas, mais je commence vraiment beaucoup de projets, donc on est vraiment sur un rythme effréné. Mais par contre je suis souvent fatiguée et j'ai souvent des petits problèmes de santé et tout, et tout le monde est en mode genre ralenti, et je suis en mode ouais, et en fait j'arrive pas du tout à faire moins de trucs. J'ai un truc de, je peux pas être inactive, quoi, être assise, j'ai l'impression que c'est égal à la mort, tu vois.
C'est pour ça que tu sais pas rester en place. Si on t'enferme dans une pièce une journée, tu fais quoi?
Oh, je suis en PLS en vrai. Je suis en angoisse totale. À moins que j'ai quelque chose à faire. Mais si non, j'ai rien.
T'as rien dans une pièce.
Ah non, je suis pas bien. Je suis pas bien. Je me dis pendant toute la journée que je suis en train de perdre une journée de ma vie, que genre, En fait, je pense qu'il y a vraiment un truc avec la mort, parce que j'ai pris le truc dans tous les sens, et je me dis que faire des choses égale être en mouvement, égale être en vie, tu vois, et que rien faire égale être pas en mouvement, et donc la mort, quoi. Vraiment, il y a un truc, et la mort m'effraie vraiment depuis toujours. Donc je pense qu'il y a ça un peu.
C'est pour ça que t'as peur de vieillir, ou ça,
y a ouais. Plusieurs... Okay. Ouais, ça a rapport à... Même mon anniversaire, c'est vraiment...
C'est angoissant.
Hyper angoissant. Je pense, enfin tu vois, c'est une explication de comptoir à deux Francis.
C'est le nom de ce podcast, explication de comptoir.
C'est vrai.
Mais,
mais franchement, il y a ce truc-là de, voilà, d'être toujours active, de... Et pourtant, j'aime beaucoup être seule, donc tu vois, c'est pas... Mais je suis seule et active, quoi. Mais j'aime beaucoup être... J'ai pas besoin d'être toujours entourée, par contre. Ça, c'est pas un problème. J'aime beaucoup, beaucoup être toute seule. Et justement, en fait, quand je suis seule, je peux disposer de mon temps, tu vois. Limite, presque, parfois, la sociabilité, ça, c'est une perte de temps, tu vois.
Enfin, bon, c'est dernière. Ton entourage arrive à accepter ça? Parce que des fois, c'est compliqué de...
Non, plus ou moins, genre... Justement, je parlais de priorité l'autre jour, et j'étais en mode, ouais, bah moi, je priorise... autant ma musique que ma vie sociale ou ma vie amoureuse, et il y a plein de gens qui comprennent pas. Il y a plein de gens pour qui la vie sociale et la vie amoureuse c'est plus important. Je pense que si ma carrière et ma musique étaient plus importantes que ma vie sociale et ma vie amoureuse, ce serait problématique, mais je les mets vraiment au même niveau, c'est-à-dire qu'il y a des périodes où je vais avoir plus envie de voir mes amis et je vais prioriser mes amis et ma vie sociale et ma vie privée, et des périodes où je vais prioriser ma musique et ma carrière et mes projets. mais ça dure jamais. Enfin, on parle vraiment de, tu vois, de semaines, quoi. Ça change de semaine en semaine. Donc, c'est pour ça que je les mets au même niveau. Pour moi, c'est sain. J'ai l'impression que c'est sain. C'est pas hyper accepté, mais c'est sain, je trouve.
Par rapport à ça, justement, j'ai vu que t'avais un peu l'angoisse du fait que t'as commencé tôt. Que plus tu grandis, moins c'est impressionnant, en quelque sorte.
Bah, on revient à l'âge, en fait. Il y a un truc avec l'âge où quand t'es une jeune personne, je pense une jeune femme, c'est peut-être encore pire parce que t'es une femme et que du coup, ça engendre plein de trucs pas cool. Mais quand t'as 16 ans et que tu fais de la musique et que t'es déjà un petit peu visible en tant que musicienne à 16 ans, il y a ce truc de, voilà, d'enfant prodige, quoi. Il y a ce truc de crier au génie parce que, par rapport à ton âge, t'es hyper avancée et tout, mais en fait, c'est des espèces de constructions sociales dans la tête des gens. Et du coup, ça a été difficile pour moi d'arriver à la vingtaine et de me dire, genre, là, t'as 20 ans, t'as 21 ans, t'as 22 ans. Et en fait, en vrai, quand je regarde, j'ai évolué sur plein d'aspects et je crois que je suis vraiment moins conne qu'à 16 ans, tu vois. Mais il y a ce truc, voilà, mais c'est 100% une projection, enfin, ça vient des autres, quoi, tu vois, ça vient pas de moi. Je pense que si... si les gens ne réduisaient pas les humains à leur âge, je m'en ficherais un peu. Et puis après, il y a l'autre aspect un petit peu autour de l'angoisse de la mort et tout. Mais vraiment, sur cet aspect-là, âge VS carrière musicale ou artistique, je pense qu'il y a ce truc-là où... Ouais, c'est comme si c'était un critère, quoi, tu vois. Et en même temps, souvent, je pense à Barbara. Et Barbara, elle a commencé sa carrière à 35 ans. Et du coup, ça me rassure, quoi. Je me dis, bon, on peut être incroyable à 35 ans. Et c'est cool, quoi.
Ce podcast, il s'appelle Les gens qui doutent. C'est quoi ton rapport au doute?
C'est un rapport amour-passion. Un rapport fusionnel avec le doute. Non, en vrai, je me remets beaucoup en question. Parfois trop, je pense. Je suis hyper critique avec moi-même. Et j'apprends justement à utiliser le doute à bon escient. Et surtout à le doser suivant les sphères, quoi, de ma vie, parce que des fois c'est pas bien, quoi. Des fois c'est trop, je pense que des fois c'est pas assez, parfois je vais avoir de l'orgueil, mais ouais, je doute beaucoup, mais à une dose très différente en fonction des situations et des zones de ma vie, quoi. Je sais pas si c'est très clair, mais
ouais. C'est quoi trop?
Trop, c'est quand je vais me flageller, quoi. Genre, je me remets tellement en question que, genre, je suis en mode, mais t'es horrible, t'es trop conne et tout. Genre, que je trouve que je suis nulle, quoi. Ça, c'est trop. Et pas assez, ça va être quand je suis incapable de m'excuser pour un truc que j'ai fait, par exemple.
Ça t'arrive, ça?
Ça m'arrive, ouais. Enfin, je fais des efforts vachement, mais j'ai eu du mal pendant longtemps à m'excuser, ouais. À dire je m'excuse, comme si c'était un move de faible, quoi. Trop pas, en plus. Et depuis genre un an, je dirais, je m'excuse vachement. Mais avant, je m'excusais.
Et qu'est-ce
pas.
Qui a fait le déclic?
Des proches autour de moi, des amis, des relations où j'étais en mode je m'excusais pas. Et clairement, il y avait de quoi s'excuser. Et les gens, ils me disaient, mais enfin, excuse-toi, en vrai, ça va tout régler, quoi. Et j'étais là, genre, ok. Et du coup. Enfin, souvent quand t'aimes les gens et que t'as envie d'être une bonne personne avec des gens, moi ça m'arrive souvent quand même, et tu changes ton attitude assez facilement, en fait, plus que un mec que tu détestes te dit ouais excuse-toi, tu vois, genre et j'essaie d'avoir une dose juste du doute et tout, et s'excuser, en vrai c'est hyper important. Je me suis rendu compte que c'était ça t'enlève rien, mais par contre parfois ça règle un conflit, mais en 30 secondes. Dans le couple, c'est pas facile de s'excuser, il y a ce truc là de, je sais pas, où tout est un petit peu plus tendu et tout, et j'ai un peu appris à m'excuser, ouais, dans la vie en général, il y a pas longtemps. C'est un bon accomplissement, je crois.
Je suppose qu'avec tout ce qui s'est passé ces dernières années, pour toi, ton rapport au doute a dû énormément évoluer. Est-ce que, du coup, c'est plus sain, c'est plus chouette pour toi? Ou est-ce que des fois, t'as l'impression que ça allait trop loin et que t'as tendance à être trop sûre de toi parce que t'as été validée par d'autres gens, tu vois?
Non, je pense que... la seule zone de ma vie où je m'autorise à être très sûre de moi, c'est les choix artistiques que je fais. Et franchement, c'est une nécessité. Et j'avoue que je ne souhaite pas recevoir de conseils artistiques de gens non sollicités, tu vois. Genre,
Genre... Heureusement, ça n'arrive jamais sur Internet.
Yes. Non, mais il y a cette zone-là de ma vie où je me permets aujourd'hui, je pense depuis que j'ai sorti mon album Les Failles, parce que ça a été vraiment pour moi une reprise de pouvoir et de gestion de ma propre musique et de ma propre carrière et tout. Sur cet aspect-là, artistique, j'avoue que, à part avec des gens que j'admire et à qui je demande en fait, voilà, un avis, sinon je suis 100% sûre de mes décisions et j'impose mes décisions à mon équipe et tout, en mode je sais que c'est ça qu'il faut faire. Et cette confiance-là, elle est hyper précieuse parce que ça me permet d'aller au bout de mes projets et de pas me poser 1000 questions qui servent à rien, et je suis vraiment mon instinct. Après, sur les autres aspects de ma vie, en général, je manque plutôt de confiance en moi et je suis plutôt dans un truc de remise en question perpétuelle et d'anxiété, de performance et d'être toujours au max, tu vois. Donc, le seul aspect de ma vie où peut-être un jour ça pourrait me desservir musicalement et artistiquement si vraiment je sors une bouse et que je suis sûre que c'est cool et que, tu vois. Mais en même temps, si moi ça me plaît et que je suis sûre que c'est cool, enfin voilà, tu vois, c'est peut-être le seul. C'est un peu subjectif. Après, pour le reste de ma vie, je suis tout le temps un peu en train de me remettre en question et d'évoluer et d'essayer d'être une meilleure personne parce que flemme d'être une mauvaise personne, quoi.
Alors que c'est tellement plus...
C'est tellement plus simple.
Non, c'est tellement plus simple d'être une mauvaise personne, oui. De s'en battre les couilles.
Oui, oui, oui.
Du coup, c'est pas de la flemme.
Bah ouais, mais flemme d'être une mauvaise personne de plus dans ce monde, quoi, tu vois. C'est ça, un peu.
C'est quoi le truc que t'as fait évoluer dans ta personnalité dont t'es le plus fière dernièrement?
Peut-être mon engagement. Mon engagement, ma tolérance, mon militantisme que j'essaye d'affiner, de faire évoluer et de préciser, dans le sens où j'essaie de faire beaucoup de lectures, de documentation, et j'essaie d'emmagasiner plein d'informations pour me faire ma propre vision des choses, mais aussi pour être le plus inclusif possible et pour oublier personne et ne pas militer en excluant des gens, tu vois. Je pense que c'est... Et puis je me suis rendu compte aussi que le militantisme, en fait, c'était pas un gros mot. C'est un peu comme, tu vois, le féminisme. En fait, pendant longtemps, tout le monde avait peur de parler du féminisme. Et puis maintenant, on a compris que c'était juste la base et que c'était une demande de droit humain. Et en fait, le militantisme, c'est quand même ça, quoi. C'est quand même demander à ce que tous les humains aient les mêmes droits et que personne soit discriminé. Et je crois que, en vrai, je suis fière d'avoir déconstruit ces mots-là et de me dire que c'est des mots qui font partie du quotidien et qui sont nécessaires. Et de plus avoir peur, de plus être effrayée par le militantisme, par le féminisme. Et aussi de m'intéresser à des causes qui ne me concernent pas directement. Tu vois, de me dire que, en fait, ça va au-delà de, voilà, du sexisme, de l'homophobie ou des trucs qui me concernent directement. Que de m'intéresser et de m'engager dans des causes qui concernent d'autres gens, c'est aussi important que de m'engager pour des causes qui me concernent. Je pense que... Ce serait ça, ma grosse prise de conscience et du coup, fierté parce que c'est beaucoup de déconstruction et beaucoup de remise en question, encore une fois, et de tasser son ego, quoi, un peu.
Comment tu tasses ton ego?
Bah, en m'excusant, déjà. Ouais. En fait, tout va un peu ensemble. Quand je fais des choix artistiques qui me ressemblent, je me sens bien dans ma peau, je me sens bien dans mes baskets, donc je suis capable de dire par ailleurs quand j'ai fait la merde et quand j'ai été naze, tu vois. Et je pense que je sais que comme j'ai cet aspect de ma vie où j'ai confiance en moi et où d'une certaine manière je suis à une place où j'ai l'impression de, enfin je suis à ma place, tu vois, dans le métier que je fais, dans cette industrie de la musique et tout, j'ai enfin trouvé ma place. Du coup, ça me permet, je crois, d'avoir assez d'humilité, entre guillemets, pour me dire, t'as participé au racisme parce que t'as été élevé comme ça, t'as participé à plein d'autres discriminations et en fait, tu dois t'excuser et tu dois te déconstruire, tu vois. Je pense qu'il y a ce truc-là, l'ego, il peut être tassé s'il est par ailleurs aussi nourri de choses saines, quoi, tu vois.
Tu penses qu'il faut être heureux pour être bienveillant?
Ouais, complètement. Je pense que si t'es pas bien dans ta peau, c'est impossible d'être gentil avec les autres, quoi. Et j'ai mille exemples de moi qui étais malveillante avec des gens sans le vouloir, parce qu'en fait... quand t'es pas bien, t'as des comportements un petit peu inexplicables et t'as des comportements où tu sors de toi-même. Et j'ai des exemples de gens aussi autour de moi. Après, être bien, c'est, ça dépend aussi ce que tu mets dans être bien, parce que il y a un peu une injonction à, tu vois, à être trop bien dans sa peau tout le temps et tout. Et je pense que être bien, ça veut pas dire tout le temps être bien dans sa peau. Ça veut juste dire avoir trouvé une espèce d'équilibre entre justement.
Avoir une place.
Voilà. Ouais. Alors, trouver l'équilibre entre se remettre en question et être fier de soi. Et en fait, ça ne veut pas forcément dire que tu es tout le temps fier de toi, quoi. Ça veut juste dire qu'il y a des moments où tu es fier de toi et où tu arrives à te féliciter, et qu'il y a d'autres moments où tu arrives à te réprimander, quoi. C'est un peu ça, le...
Et là, c'est un peu ce que tu as fait avec les failles, concrètement. C'est dire, hey, il y a ceci qui fonctionne différemment chez moi, il y a ça qui n'est pas parfait et tout. Est-ce que tu as l'impression que c'est encore aussi difficile de parler des failles et de ce qui fonctionne moins bien qu'avant? Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est un peu devenu le truc... Enfin, je sais pas, c'est devenu très normalisé en fait. Peut-être que c'est moi qui vis dans une bulle de gens privilégiés qui acceptent leurs défauts, mais
c'est normalisé dans l'art, je pense, plus que dans la société en général. Je pense que c'est des thèmes qui ont été démocratisés dans les dernières années par les artistes de musique, les artistes au cinéma. Enfin, tu vois, genre, je pense à Xavier Dolan ou Billie Eilish, tu vois, qui parlent de qui font des choses populaires et qui touchent plein de gens et qui parlent de d'anxiété, d'homophobie, de trucs un peu sombres, enfin un peu tabous. Je pense pas que dans la société en général ce soit hyper normalisé. Je sais pas, je me rends pas trop compte, parce que moi pareil, j'évolue quand même dans une petite sphère privilégiée, quand même hyper ouverte d'esprit et tout, donc je sais pas trop. Je pense que malheureusement, les artistes qui en parlent, ils touchent toujours un peu les mêmes personnes. Et je sais pas, tu vois, je sais pas, c'est une bonne question. Je me rends pas trop compte. C'est comme quand voilà, les gens ils disent, est-ce que c'était mieux avant, c'est mieux maintenant. Je me rends pas compte, parce que je pense que ça dépend de où tu te places, et ça dépend de la ville où t'habites, le milieu dans lequel t'évolues, les gens qui t'entourent. Ça se peut très bien qu'en 1902, il y ait eu un groupe de militants, tu vois, trop stylés qui manifestaient contre les féminicides, mais on le sait pas. Enfin, tu vois, genre, en fait, je pense que juste les mouvements...
Ils avaient qu'à tweeter.
Mais ils prennent juste de l'ampleur en ce moment, je pense. Ouais. Ils sont plus médiatisés, les gens qui parlent de failles, d'anxiété et tout. Mais je pense qu'ils ont toujours existé. Après, je sais pas, c'est difficile de savoir, en vrai.
Est-ce que t'as des trucs pour te rassurer quand t'angoisses?
Pas trop, non.
Super. Allez, bonne chance.
Non, j'écris des chansons. Ça m'aide souvent.
Comment t'écris? Parce que là, donc, les failles, t'es partie 2 semaines en Bourgogne, ouais. Et t'as tout vomi en ouais. 2 semaines, machin.
Tout chié, quoi.
C'est ça. Ce sera le titre du podcast. J'ai tout chié en 2 semaines.
Ouais.
Et du coup, mais t'écris un peu tous les jours, un peu tout le temps, non?
Non, si je pense que je suis partie justement parce que j'ai pas cette méthode de travail d'écrire tous les jours. Franchement, si j'écris une chanson à Paris, c'est vraiment parce que je suis au bout de ma vie, parce que à Paris, je suis pas du tout inspirée et je suis pas du tout dans une dynamique d'écriture, donc j'ai besoin de partir.
Et tu vis ici?
Ouais.
OK.
Du coup, j'ai besoin de partir et de m'isoler, et j'ai aussi besoin d'emmagasiner de l'expérience, des émotions, des rencontres, des conversations et tout, donc je peux pas écrire au quotidien. J'écris pas tu vois, de manière instantanée sur un truc qui m'arrive, je vais écrire des mois après parfois. Après, ça m'arrive d'écrire à Paris si vraiment je vis une grosse émotion ou que j'ai une grosse prise de conscience et tout. Vraiment, dans ce cas-là, c'est un peu vital, tu vois, c'est un peu genre c'est un peu j'allais dire, c'est un peu diam, c'est vital.
Oui.
Non, mais dans ce cas-là, genre, j'ai pas le choix d'écrire une chanson. Mais quand je vais bien, la plupart du temps, en fait, ben, si je veux écrire un album ou que je veux faire un projet et tout, j'ai besoin de m'isoler pour me mettre dans un mood un peu pour écrire, quoi. Diam, c'est vital. J'ai besoin, pas d'être triste, mais de me remettre en question, justement, d'être en introspection. Et t'as pas tout le temps envie d'être en introspection, t'es pas tout le temps en introspection, tu vois. Des moments où t'es en extradition. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, ouais, à fond.
Je sais même pas ce que ça veut dire, extradition. Je sais pas si ça existe.
Oui, ça existe, mais ça veut pas du tout dire ça.
C'est quoi?
C'est
c'est un truc de la police, non?
Ouais, ouais. Genre quand tu vas ailleurs, et en fait, je mettrai des bips comme ça, ça fera comme si j'avais expliqué. Mais du coup, t'aurais fait quoi si t'étais allé en Bourgogne deux semaines et qu'il y avait rien de bien qui était sorti, qui sortait?
C'est une bonne question, hein. Très bonne question. Je pense que c'était un moment parfait et que ça devait se passer à ce moment-là et que moi, je crois beaucoup aux dates. Enfin, tu vois, pourquoi tu ris?
Mais parce que je pensais que t'allais faire une. Je sais pas pourquoi j'avais pensé que t'allais faire une blague.
Non, mais c'est vrai que là, je suis un peu en mode esprit de la blague. Là, ça y est,
il est réveillé.
J'ai
oh
la
là
blague,
là.
J'ai la blague folle dans mon cerveau.
Vas-y.
Non, mais je crois beaucoup au Québec, ils disent un momentum, tu vois. En anglais, c'est un truc qui arrive à un moment précis et c'est comme ça et ça doit. C'est le destin en fait, un peu. Je crois que ça s'appelle en vrai. Et du coup, je pense que voilà, ces deux semaines en janvier 2018, elles étaient pas là par hasard. Je venais de vivre ma première rupture. J'étais au bout de ma life, tu vois. Genre, ces chansons, elles sont nées à ce moment-là parce que c'était un moment spécial. Et comme j'ai choisi de sortir mon album le soir d'Halloween à minuit parce que c'était symbolique pour moi, comme
parce que sorcière ou
ouais, parce que Halloween ça m'a toujours fascinée et que ouais, il y a tout un univers et une atmosphère et des croyances autour d'Halloween qui me fascinent et je voulais pas sortir mon album à une autre date. Et tu vois, c'est des choses qui pour les gens sont un peu anodines, mais pour moi c'est hyper important et je pense que voilà, ces deux semaines, je le vois comme ça. Je me dis, les deux semaines en janvier 2018, elles étaient là. Elles n'auraient pas pu être à un autre moment. Et si j'avais eu un contre-temps, bah, j'aurais pas fait cet album, quoi. J'aurais fait un autre album.
J'aurais fait un album de country.
Ouais, j'aurais fait un album de R&B, je pense.
Oh yes. Yeah. Vas-y, fais un freestyle.
Quand je t'aime, je suis jaloux. Non, ça c'est Dajou. C'est pas du tout un freestyle.
Je connais pas du tout.
Non, je suis très mauvaise en freestyle. L'autre jour, j'ai écouté l'album de Damso et j'étais à fond. Et après, j'ai dit, j'ai fait des mémos à ma meilleure amie et j'étais là genre... J'ai mis une clé dans ta bouche pour voler ton cœur, je sais pas quoi. Genre, j'étais au max. Une clé dans ta bouche, quoi. J'ai mis une clé dans ta bouche pour voler ton cœur.
Ben ouais, écoute.
Pour ouvrir ton cœur.
Après, l'oiseau dans le ventre et la clé dans la bouche, moi, je trouve ça hyper cool.
Une clé dans ta bouche. Vraiment, c'est très, très graphique. Quoi.
Ouais, bah c'est. Je trouve ça très cohérent avec ce que tu fais déjà, en fait.
Bah, bon, ça part. Ça part pour la clé dans la bouche, quoi.
T'écoutes quoi pour l'instant?
Là, j'ai écouté l'album de Okelou. Je sais pas si tu connais, c'est trop bien. Elle a sorti vendredi. Trop stylé. J'ai téléchargé aussi le nouvel album de Okekaya. C'est deux Okay. Okelou, Okekaya. Attends, je prends mon téléphone, je vais te dire. Qu'est-ce que j'écoute d'autre en ce moment? Je regarde. Soufiane Stevens aussi, nouvel album.
Ah, j'ai pas encore écouté le nouveau.
Et un gars qui s'appelle Mustapha, qui est un poète et qui a sorti deux singles sublimes. Sublime.
Il est français?
Non, il est, je sais pas d'où il vient. Américain. Il a fait des trucs avec James Blake. Il est très stylé. Voilà. Mais je chine beaucoup. Enfin, je cherche beaucoup de nouvelles musiques et tout. J'aime bien.
Ok. Comment t'as réussi à te débarrasser de tes filtres pour cet album-ci et de pas te dire ok, ça c'est pas une bonne idée, ça c'est pas. Comment t'arrives à y aller autant à l'instinct? Comment tu sais que c'est la bonne chose à faire?
Bah déjà, j'étais toute seule. Donc, encore une fois, il y a ce truc de demander l'avis des gens ou pas. Et je pense que moins on a d'avis des gens, plus on est sûr de sa décision, en fait. Quand on arrive à se connecter avec ce qu'on veut et avec son intuition et son instinct. Après, au même moment, je lisais aussi le livre « Femmes qui courent avec les loups ». Qui parle justement vachement de ça, qui est un peu une bible de ça, de l'instinct féminin, de tout un tas de concepts hyper spirituels, mais en même temps hyper ancrés dans le réel. Et ouais, en fait, je me suis interdit de me poser des questions, et ça a bien marché du coup. Je pense que comme j'ai tendance à m'en poser beaucoup, le fait de m'interdire de m'en poser, je m'en posais un peu, mais pas assez pour que ça me pourrisse la vie. Et pareil, j'ai aussi, enfin, le temps qui était réservé à cet album, c'était très court à chaque fois, justement pour éviter de revenir 12 000 fois sur les trucs. Donc 2 semaines pour l'écriture en gros. Bon, après j'ai écrit un petit peu après aussi, mais les 70% de l'album, je les ai écrits en 2 semaines. Et en studio, on avait 5 jours seulement pour faire 15 titres. Donc en vrai, on n'avait pas le temps de, tu vois, de revenir 500 fois sur les trucs et d'être en mode genre « Ah non, ça va pas ». Et du coup, ça m'a vachement aidée, quoi. Et je sais que j'ai besoin de bosser comme ça, moi. J'ai besoin de... En tout cas, pour cet album-là, qui était donc l'album qui parle des failles et qui est l'album de l'acceptation de soi, un peu, ben, je savais que je voulais pas y passer la nuit, quoi, tu vois, sur les chansons. Donc, le temps court et aussi la réduction du nombre d'intervenants autour du projet, je crois, m'ont aidé à aller au bout de mes envies, quoi.
Comment t'as réussi à 22 ans, du coup,
ouais,
à convaincre un label de te laisser tout gérer, de choisir tout, de faire tout, d'aller même jusqu'à imposer la date de sortie?
Ouais. Bah, comment j'ai réussi? Je cherche une blague.
Vas-y. si tu veux, je couperai, comme ça on aura l'impression que c'est spontané.
Ouais. Non, mais en fait, le premier album, ça a été un peu désastreux quand même. Faut le dire, hein, faut appeler un chat un chat.
Dans ton ressenti, c'était désastreux?
Dans mon ressenti et aussi dans le concret, dans les rapports avec mon label, c'était horrible. Et c'est toujours mon label, c'est pour ça que je me permets de dire ça, parce que sinon ça aurait l'air de bitch, tu vois. Mais ça s'est pas du tout bien passé. Il y a eu beaucoup de... Justement, j'ai beaucoup été piétinée dans mes choix, dans mes envies, dans ma tentative de recherche d'identité, tu vois. Et on me disait beaucoup, fais ci, fais ça, fais pas ci, fais pas ça. Et comme ça n'a pas abouti aux objectifs prévus, je leur ai
en
juste...
En termes de toi, comment tu l'as ressenti l'album, ou en termes de vente?
Les
ou...
deux. Okay. En termes de rencontre avec le public et en termes de d'être bien avec soi. Clairement, ça m'a rendue hyper malheureuse. Et en plus de ça, donc les compromis que j'ai faits m'ont rendue malheureuse. Et ça n'a pas du tout eu l'impact, tu vois, espéré. Donc tout le monde était déçu, en fait. Et du coup, je me suis un peu servie, je crois, de ce contre-exemple en disant, bah... Enfin, clairement, faire quelque chose qui me ressemble pas, ça marche pas. Même si je fais des efforts et que j'essaye et que je fais ce que vous me dites de faire, je m'exprime comme vous me dites de m'exprimer, parce que ça allait vraiment jusque là, tu vois. Je m'habille comme vous me dites de m'habiller, machin, je me maquille et tout. Ça marche pas. Donc, laissez-moi faire mon truc et on essaye, quoi, et on voit ce que ça donne. Et en vrai, je sais pas trop ce qui a fait qu'ils auraient pu dire bah non, et ils auraient pu me dire ciao. Mais moi, j'avais pas peur de... qui me rendent mon contrat, en fait. Je leur ai dit, bah, au pire, vous me rendez mon contrat. Et je pense que du coup, il y avait ce truc de dire, bon, bah voilà, on prend le pari. Il y avait aussi le fait que je remplissais quand même mes salles de concert. Mais quand je faisais des concerts, j'étais seule en guitare-voix. Et donc, il y avait ce truc où ils étaient un peu là, genre, ok, donc en fait, elle va remplir une salle de concert à Paris, il y a 1500 personnes qui viennent, mais par contre, on ne vend pas d'album. Et sur les promos, personne ne veut l'inviter à la télé, personne ne veut la jouer en radio. C'est un peu bizarre quand même que les gens ils viennent à son concert et qu'ils kiffent quand elle est en guitare-voix et qu'elle ne fait pas les arrangements de son album, tu vois. Donc je pense que, en fait, j'ai eu cette expérience qui n'était pas cool, finalement, ça m'a vachement servi. Et d'ailleurs, aujourd'hui, tu vois, je suis hyper en paix avec ça, mais parce que ça m'a servi de... Ça, c'est grâce à cette expérience que j'ai pu faire mon deuxième album dans ces conditions-là, quoi. Donc c'est un premier album mitigé et que j'aime beaucoup, tu vois, un peu comme un enfant insupportable, quoi. Genre, tu vois. Je suis en mode insup, quoi. Mais ça m'a beaucoup servi, ça m'a beaucoup. Et puis aujourd'hui, mine de rien, il y a une partie de l'équipe du premier album qui travaille encore sur mon projet. Et c'est assez ouf, du coup, l'évolution, tu vois, l'évolution de la pensée des gens, mon évolution à moi, enfin, tu vois, juste le respect. En fait, là, il y a un respect total de mon identité et moi, je les respecte aussi. Et voilà, je sais qu'ils me respectent et donc je les respecte. Donc on est sur un respect, quoi.
Mutuel.
Un respect mutuel. C'est un consentement.
Qu'est-ce que la popularité a changé à tes angoisses?
Bonne question, good question.
Oh yeah, yes. It's English.
Yeah. Bah, c'est très bizarre parce que moi, je me suis mis à être populaire, entre guillemets, un peu au moment, populaire, en tout cas à passer à la télé au moment des victoires à peu près, donc février. Et en fait, 3 semaines après, j'étais confinados.
Donc on te reconnaît pas dans la rue, parce qu'on te voit pas dans la rue.
Du coup, j'ai été confrontée, enfin, si on peut appeler ça comme ça, mais j'ai fait l'expérience de la popularité pendant quelques semaines, et après je suis retournée à un anonymat total. Donc, en fait, c'est difficile de parler de ça, parce que du coup, comme cette année c'est complètement chaotique et que c'est l'année de
c'est ton année.
De mon succès, en fait. et de ma popularité, c'est bizarre du coup. Il y a un truc de, j'arrive pas trop à saisir du coup en fait, parce qu'il y a tellement de choses qui se passent et tout que, tu vois, si j'avais vécu ça l'année dernière, ben je pourrais t'en parler différemment et te dire voilà au quotidien.
Non, t'aurais pas accepté l'interview.
Peut-être. Bah si, non mais si, parce que en vrai, oui, il y a des gens qui me reconnaissent dans la rue. Est-ce que ça m'angoisse? Non, pas plus que ça. À part quand les gens ils me reconnaissent, mais que je sens pas qu'ils apprécient mon travail, tu vois. Il y a un gars l'autre jour qui était, c'était juste avant le confinement, je crois, qui était sur sa trottinette électrique déjà, bonsoir. Quand tu sais que les trottinettes électriques ça pollue de ouf et que c'est de la merde. Bref, et ça c'est un autre débat. Et il était là et il m'a dit, c'est pas mal ce que tu fais, genre vraiment hyper hautain, tu vois, en passant à côté de moi sur sa trotte. Et j'étais là, genre, ok. Et voilà, ça c'est pas cool, mais en même temps. Franchement, c'est un détail aux yeux de l'histoire de l'humanité, quoi, tu vois. Et la plupart du temps, les gens, ils sont adorables, ils me disent des trucs hyper touchants, et comme ma musique est hyper intime, tu vois, ils sont plutôt dans une démarche de bienveillance, amitié, enfin, je sais pas trop comment expliquer ça, tu vois, mais voilà, une démarche de bienveillance, quoi.
Quand j'ai dit sur Twitter que je te recevais, il y a quelqu'un qui m'a filé une question. Que pense-t-elle sur le fait que grâce à son album Les Failles, certaines personnes aient pu, à travers ses musiques et textes, surmonter des moments difficiles et combattre leurs propres failles?
Bah, j'en pense que c'est trop cool. Imagine si je suis en mode genre, bah c'est horrible, enfin.
C'est horrible, c'est mais dégueulasse. Gérez-vous vous-même en fait, putain!
Ouais, non, mais c'est trop bien, enfin. Moi j'ai, par ce même biais, été sauvée dans plein de moments de mon adolescence par la musique, par les chansons, par...
C'était qui, toi, tes thérapeutes, sans qu'ils le sachent?
J'en ai eu plein. J'ai eu toute une phase Lady Gaga. Mm-hmm. Enfin, qui n'a jamais cessé, en fait, cette phase. Donc, je suis
toujours... Elle ne cesse jamais.
Elle ne cessera jamais.
Once a little monster.
Waouh, t'es allée loin, là.
Ah, ça. Yes.
Dans l'appellation du groupe de fans, quoi. Ça, j'aime. J'aime beaucoup que tu prennes ce parti. Il y a eu Cœur de Pirate. Qui me touchait vachement parce que c'était hyper sensible, et il y avait ces thèmes, voilà, justement, qui sont des thèmes qui me touchent toujours aujourd'hui, hein, de la rupture, de la mélancolie et tout. Et ouais, j'ai beaucoup écouté Cœur de Pirate, beaucoup écouté Lady Gaga, qui est-ce qui était mes idoles encore, beaucoup écouté Camélia Jordana.
C'est plus tard ça quand même, non?
Bah en fait non. Bon, c'est 2010. Moi, ça correspond. Cœur de Pirate, Camélia Jordana, c'était au même moment, okay. À peu près. Ouais. Ouais, j'avais beaucoup d'admiration pour les chanteuses femmes. Je pense que je me projetais. Et j'avais surtout envie d'appartenir un peu à ce truc-là, je pense. J'avais ce truc de me sentir hyper inadéquate dans le quotidien pour plein de raisons. Et du coup, de voir ces femmes-là et de me dire, ah, moi, je veux appartenir à ça, tu vois. Genre, ça, écrire des chansons, être sur scène. Prôner l'acceptation et tout, ça me parle, quoi. Donc c'est cool si cet effet là et maintenant l'effet que provoquent mes chansons, c'est incroyable.
Mais en gros, tous les exemples que t'as donné, c'est des artistes qui justement s'assument vachement fort,
ouais,
tels qu'ils sont.
C'est ça.
Pourquoi tu te sentais inadéquate?
Bah parce que j'ai grandi, je sais pas, j'ai grandi avec un grand sentiment d'être différente, et tu vois, ça veut un peu tout et rien dire, quoi, mais j'ai toujours eu l'impression d'être bizarre, j'avais toujours l'impression de pas avoir, d'être hypersensible, d'être triste pour des choses absurdes. J'étais obsédée par les animaux, je parlais aux animaux, enfin tu vois, genre j'étais vraiment dans un délire de... J'étais assez isolée, en fait, et en même temps très sociable, et je m'engueulais tout le temps avec mes amis. J'allais voir des psys à 6 ans, mais je savais pas trop pourquoi, tu vois. Enfin, genre, j'étais vraiment un peu ostracisée, mais j'ai jamais trop compris pourquoi.
Mais tu leur disais quoi? Enfin, non, pas tu leur disais quoi, mais genre...
À qui? À mes amis ou aux psys?
Aux psys. Enfin, genre, c'était quoi le...
Je sais pas. C'est mes parents qui m'ont emmenée chez un psy. Franchement, je sais pas, mais je pense que ça a limite participé, tu vois, genre... Tu vas chez un psy à 6 ans.
Tu comprends que t'es pas normal, voilà. Et donc tu t'enfermes un peu.
Exactement.
Là-dedans.
Exactement. Ouais, okay. Et du coup, Je sais pas, peut-être parce que mes parents ils me trouvaient relou. Enfin, tu vois, c'est pas une bonne raison, mais ça devait être ça la raison, tu vois. Genre,
tu étais leur premier album.
Voilà, et exactement. Et du coup, voilà, tu vois, aller chez un psy, avoir l'impression d'être du coup un peu folle et un peu inadéquate et tout. Et puis après, être l'artiste de la famille. Qui part de la maison à 17 ans, sortir avec des filles alors que c'est pas du tout quelque chose de normalisé dans le milieu de ma famille, tu vois. Mmh. Tout ça, quoi. Et du coup, j'ai un peu grandi en ayant l'impression d'être le mouton noir de la famille. Et voilà, du coup, forcément, ça. Je pense que c'est cette admiration que j'avais pour ces artistes, c'était juste une espèce de sentiment d'appartenance, tu vois, à autre chose et de me dire, ben, c'est une autre famille, quoi. C'est... La famille choisie.
Ah. Oh.
D'ailleurs, j'ai demandé à Camélia d'être ma marraine récemment.
Pour de vrai?
Ouais.
Oh, c'est trop mignon.
Ouais, ouais. Ma marraine de cœur, parce que je me suis dit que c'était cool d'avoir des parrains et marraines de naissance, mais que c'était encore plus cool de les choisir après quand t'es grand, quoi.
Elle a dit non.
Si, elle a dit oui. Elle a dit oui et elle a dit qu'elle voulait que je sois sa marraine aussi parce que je lui ai dit que personne m'avait demandé d'être la marraine de quelqu'un. Et du coup, on est mutuellement la marraine de l'autre. Pas mal, non?
C'est très mignon. Et en même temps...
Ça te fait peur?
Mais non, mais je me dis, mais logiquement... Mais il y a ce truc de qui prend soin de l'autre. Enfin, du coup, les deux, mais...
Les deux. Mais... À tour de rôle, tu vois?
Ouais, 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 c'est vrai.
À tour de rôle.
Ouais. C'est pas l'habitude des relations saines équilibrées.
Ouais, c'est ça. Il n'y a pas d'embrouille, en fait.
Mais il n'y a pas quelqu'un qui a l'ascendant et qui va utiliser une certaine pression sur l'autre. Mais quoi?
Bah non, en fait, c'est ça qui est trop bien. Et elle m'a dit, ok, vas-y, on fait ça, on se fait des dîners de marraine. Oh. Et ouais. Mais ouais, tu peux choisir des gens. En fait, en vrai, tu choisis des gens. Tu choisis des gens dans ton présent d'adulte que t'aimes et qui sont bienveillants avec toi et avec qui t'as envie d'être bienveillant et. En vrai, c'est surtout de l'amitié, mais il y a ce truc de l'appellation marraine, ça fait en sorte que tu, je crois que tu mets, enfin moi personnellement, je mets plus d'énergie ou en tout cas je m'applique encore plus, tu vois. Je me dis c'est précieux quoi. Tu veux choisir une marraine après cette
ce bah ouais un peu. Qui m'aime assez pour dire oui. bah, du coup dernière question.
Oui.
Il faut que tu ailles.
Je parle beaucoup.
Ben bah, c'est très bien, c'est le principe d'un podcast.
J'adore. J'ai une infection urinaire pour ceux qui voulaient le savoir.
Mais est-ce qu'on peut en parler? Parce que vraiment, personne en parle.
Ah ouais, ouais,
alors que tout le monde horrible. En a.
C'est bah, toutes les femmes surtout, ouais, les ouais. Hommes je sais pas, mais ça fait mal, ça fait mal, ça fait très mal et les antibiotiques ça détruit la flore intestinale pour ceux qui veulent.
De toute façon, c'est une chronique souvent.
Voilà, donc il faut prendre les antibios et les probiotiques pour aller mieux.
Du cranberry.
Du cranberry, du démanose. Moi, je suis au max. Appelez-moi pour les cystites. Okay. N'hésitez pas. J'ai eu une cystite aux Victoires de la Musique.
Ah ouais?
Avec ma combinaison intégrale. Donc, j'allais aux toilettes toutes les 15 minutes et j'étais à poil dans les toilettes, du coup, pour faire pipi sans ma combi.
Yes.
détail qui tue.
C'est quoi le truc que t'aimerais le plus faire grandir, évoluer chez toi dans les prochaines années?
Ma tolérance et du coup en lien avec le militantisme je pense ouais tolérance capacité à s'excuser et du coup de me diriger toujours vers des causes que je trouve nobles mais je pense que ça part de la tolérance quoi ça part de l'ouverture d'esprit et de la tolérance c'est hyper bateau mais voilà
est-ce que tu penses que la paix dans le monde ce serait pas mieux?
Oui, je suis Yannick Noah. Bah si, ce serait super.
Pourquoi tu réponds au premier degré?
Bah j'ai pas.
Merci Claire.
Pas de problème, avec plaisir, je reviens quand vous voulez, pieds nus ou chaussés.
Ah yes, on se fera un tennis. J'espère que l'épisode vous a plu et vous a donné envie d'écouter Pomme si ce n'est pas encore le cas. Je mets dans la description tous les liens vers ses albums, ses dates de concert et ses réseaux sociaux.
Merci beaucoup d'avoir écouté Les gens qui doutent, c'est très cool. Et si vous venez de découvrir le podcast, eh ben bonne nouvelle, vous en avez plein d'autres à rattraper, avec Cœur de Pirate, avec Sophie-Marie Laroui, Kian Kojandi, Eva Bester, Flaubert et plein d'autres. Vous pouvez vous abonner d'ailleurs via votre application de podcast et mettre des étoiles sur iTunes, yes. Et vous pouvez suivre et même soutenir ce projet en faisant des dons via Patreon également. Vous donnez genre 3 à 5 euros, ce que vous voulez. Et depuis maintenant, les abonnés Patreon reçoivent le nom des invités à l'avance et peuvent me filer des questions à leur poser. Donc voilà, si vous voulez poser par exemple des questions à, je ne sais pas, au hasard, une certaine Marina Rollman, qui est peut-être invitée dans le podcast en octobre, on ne sait pas, et ben voilà, n'hésitez pas à aller checker le Patreon. Et puis vous pouvez me suivre aussi sur Facebook, Twitter, Instagram en tapant Fanny Ruet pour ne rien manquer de la suite. Bisous! Et j'ai oublié de vous dire que cet épisode avait été mixé par le fabuleux Maxime Wathieu.
Ouais, Laurie, elle est trop mignonne.
Quand j'étais petite, je regardais tous ces clips à la télé, je notais combien de danseurs elle avait, parce que comme ça, moi, quand je serais chanteuse, je prendrais le même nombre.
Oh, waouh.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.